Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être à cette émission en toute intimité. Et oui, nous sommes diffusés sur les ondes du 92.7 FM dans l'Outaouais et en retransmission sur YouTube, sur Décentré et sur plusieurs réseaux sociaux. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis en compagnie de Diane Deslongchamps, qui est coach en périnatalité. Et ce soir, nous allons aborder un sujet intéressant. Parce que, est-ce que vous êtes à l'aise de parler de sexualité, de parler de votre sexualité avec votre conjoint ou votre conjointe? Parce qu'on peut prendre pour acquis que c'est facile puisqu'on vit cette intimité sexuelle ensemble. Mais pour certains couples, ce n'est pas toujours évident. Bonsoir, Diane.
Bonsoir, Eric. Ça va bien?
Ça va très bien. Et toi?
Oui, ça va bien. Merci.
Good. Alors, dis-moi, Diane, est-ce que c'est important d'apprendre à aborder le sujet, parce que on pourrait se dire, ben, on saute à l'action, on le vit, on le fait. Est-ce que c'est si important que ça, en parler et pourquoi?
Ouais, je pense que tout est dans la communication. Et juste pour toi, parce que tu aimes beaucoup les calembours, je te dirais que c'est important de s'exprimer. Non? Oui? OK! Alors, si une bonne communication affective est essentielle dans un couple, se parler de sexualité l'est tout autant. De la même manière, faire que l'amour évolue avec la relation, la sexualité se transforme au fur et à mesure des événements de la vie, tels que la grossesse, la vie de famille, la maladie, la ménopause, la vieillesse, etc. Quand on a passé la période de lune de miel, époque où l'autre semblait parfait, apparaissent souvent de petites contrariétés. Difficulté d'accès à l'orgasme, manque de rapport sexuel, caresses maladroites. Tous ces déplaisirs nous sautent aux yeux et plutôt que de se résigner, vaudrait mieux en parler pour inventer une sexualité différente et pour se mettre au même diapason. Si on ne s'exprime pas, il y a certainement le danger des non-dits. Ça, il y a beaucoup de choses qui est là. Dire à son partenaire qu'il y a un petit quelque chose qui cloche au lit n'est jamais facile. Mais ne pas en parler peut avoir des effets désastreux. À force de cumuler les griefs, on risque soit d'en vouloir à son conjoint et ne plus le désirer, ou d'exploser et tout lui déballer d'un seul trait en employant des mots qui dépassent notre pensée. Et c'est ce genre de réactions-là qui peuvent détruire à petit feu un couple. Qu'est-ce que tu en penses, Eric?
Oui, tout à fait. Puis c'est important de comprendre comment est faite l'autre parce que, bon, déjà, mesdames, vous avez une certaine longueur d'avance en ce sens que je vous dirais que c'est plus facile pour vous d'exprimer vos émotions. Maintenant, si dans la relation de couple, vous n'avez pas cet espace-là où vous sentez pas cette liberté, où vous ne sentez pas à l'aise d'exprimer vos émotions, c'est évident que lorsqu'il est temps de parler d'intimité sexuelle, ça peut devenir délicat. Surtout, et vous l'avez constaté fort probablement, mesdames, c'est que quand on touche à l'activité sexuelle, à l'acte sexuel, au moment où il y a quelque chose qui se passe dans le lit, eh bien, pour nous, les hommes, ça remet en question notre performance, puis on devient hypersensible. Et souvent, ce qu'on capte, c'est qu'on n'est pas assez performant sur le plan du romantisme. Alors, ce que ça fait, c'est qu'on s'éteint, on se refroidit parce qu'on se dit, puisque je ne suis pas compétent, puisque je ne suis pas à la hauteur, j'aime mieux pas prendre de risques, j'aime mieux pas trop m'aventurer, parce que je vais lui faire sentir un malaise. Alors, moi, il y a deux choses que j'aimerais mentionner là-dessus. D'une part, vous, en tant qu'épouse ou conjointe, vous pouvez jouer un rôle là-dedans en rassurant votre conjoint sur ce que vous vivez de bon avec lui. Et pas dans la conversation comme préambule pour communiquer ce que vous aimez moins ou ce que vous souhaiteriez qu'il y ait quelque chose qui change, mais après l'avoir vécu ou le lendemain matin en disant « Ah, j'ai tellement aimé ça hier. » Des fois, par exemple, ça peut être au petit déjeuner le lendemain où on est sur le bord de la porte avant de quitter pour le travail. Tu sais, des fois, un petit clin d'œil en disant « Ah, ça, c'était tellement bon. » Pour le rassurer. Et vous, messieurs, ce qui est important, si vous développez l'habitude, par exemple, de commencer un premier pas, une habitude à offrir un câlin, à tranquillement, commencer par une fois par jour, sans attente, sans que ça finisse au lit, juste la caresser au moins 30 secondes, puis augmenter, aller deux fois par jour, puis trois fois par jour, puis idéalement quatre fois par jour. Mais déjà là, elle va se sentir en meilleure posture, elle va se sentir mieux soutenue sur le plan émotionnel. Et là, à ce moment-là, elle va vous faire sentir que vous êtes plus compétent. Même si ce n'est pas comme ça qu'elle va l'exprimer, elle va vous le faire sentir parce qu'elle va être comblée émotionnellement. Et le dernier point que j'aimerais discuter, Diane, c'est la disposition. Hein? Il y a toujours ce fameux cliché en disant « Ah, oh, pas ce soir, j'ai mal à la tête. » Mais souvent, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans parce que j'écoutais à un moment donné une sexologue du nom de Louise Sigouin qui a écrit le livre « Si on s'aimait ». Eh bien, elle mentionnait que c'est important de prendre conscience de qu'est-ce qui nous empêche de faire l'amour ce soir. Quand je dis ce soir, c'est pas obligé d'être ce soir, mais souvent, c'est avant de se coucher qu'on fait l'amour. Alors, est-ce que, par exemple, il y a quelque chose qui est au niveau de ma tête? Est-ce que j'ai des préoccupations? Est-ce que c'est ça qui m'empêche de faire l'amour? Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon cœur? Il y a quelque chose de pas réglé? Il y a une émotion qui est là? Est-ce qu'il y a une discussion qu'on n'a pas eue, puis on a besoin de régler quelque chose? Ou c'est tout simplement mon corps? Donc, quand on identifie que si c'est mon corps, c'est peut-être de la fatigue, c'est peut-être tout simplement parce que j'ai travaillé fort aujourd'hui, je sens pas que j'ai l'énergie. Mais quand on l'identifie, c'est plus facile de communiquer à notre conjoint ou notre conjointe ce qui nous rend moins disponible ou moins disposé. Et ça, à ce moment-là, ça enlève aussi de l'ambiguïté. Ça enlève l'aspect de rejet. Ça enlève l'aspect de ce qu'on n'est pas intéressé par notre partenaire. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu aimerais soulever, Diane, pour nous aider à en parler puis de bien se comprendre au sujet de la sexualité?
Ben, je trouvais que c'était très, très juste, là, parce que si on n'est pas au même diapason, on n'arrivera pas à rien, dans le fond. C'est vraiment important que, comme tu dis, la tête, le cœur et puis le corps soient vraiment disposés de façon à ce qu'on soit en harmonie ensemble pour pouvoir aller plus loin dans cette relation-là.
Mm-hmm. Tout à fait. Ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que c'est important d'identifier les zones de tension. Et une des zones de tension, par exemple, ce sont nos valeurs ou notre définition de la sexualité. Parce que notre définition de la sexualité lui donne une certaine valeur. On a déjà parlé dans une émission précédente. Par exemple, si pour moi la sexualité, c'est l'expression intime d'une série de plaisirs coquins, mais qui est le reflet d'un engagement mutuel et durable, OK? Donc, c'est ce qu'on vit dans l'intimité physique, mais c'est le reflet, ça démontre tout ce qu'on est ensemble et on est engagé l'un envers l'autre et c'est une expression d'un amour engagé. Mais c'est différent que si moi, ma définition de la sexualité, c'est que c'est tout simplement une passion ultime de la vie ou c'est tout simplement un stimulus physique ou même, dans certains cas, une commodité ou une faiblesse morale. Donc,
ou un devoir.
Ou un devoir, oui, excellent, oui, tout à fait. Mais quand je dis excellent, c'est excellent que tu le soulèves, mais si c'est un devoir, bon, un, on se prive d'un plaisir et on empêche son partenaire ou sa partenaire de pouvoir faire vivre un plaisir à l'autre. Alors, c'est important qu'on puisse se mettre au parfum sur la définition et de ne pas forcer l'autre dans un premier temps à adhérer à ma définition, mais déjà de savoir que, OK, ça, c'est sa définition, lui est au courant de la mienne et ça crée un dialogue et ça fait en sorte qu'on se positionne en fonction de sa définition parce que de toute façon, quand on mûrit, nos valeurs mûrissent, nos définitions de la vie, des concepts vont changer et ça devient important dans un premier temps d'en parler avec respect. Mais il y a aussi des fausses croyances qui peuvent faire obstacle ou amener des tensions ou qui peuvent nous empêcher d'en discuter. Pourrais-tu nous en parler, Diane?
Oui, il y a plusieurs fausses croyances. J'en ai identifié comme trois, mais il y en a sûrement plusieurs autres. La première, c'est faire l'amour est inné. On n'a pas besoin d'en parler, c'est quelque chose qu'on a. Ça va tout seul. T'sais, l'éducation sexuelle qu'on a reçue à l'école se bornait souvent, ou se borne encore, à parler de contraception, d'infections transmises sexuellement. Mais il n'y a jamais rien qui est abordé à propos du plaisir. Puis, bon, on peut comprendre à quelque part pourquoi. Mais pourtant, faire l'amour, ça s'apprend. T'sais, l'idée domine encore que les hommes auraient dans ce domaine la science infuse. C'est une idée fausse et surtout dangereuse. Parce que dans ce conditionnement culturel-là, ça l'incite certains hommes à se comporter comme s'ils savaient tout. Puis les femmes, elles, de leur côté, sont persuadées que leur conjoint maîtrise déjà parfaitement le sujet. Alors, ça freine sûrement, assurément, la possibilité d'une communication pourtant essentielle. Donc, je pense que faire l'amour, ça s'apprend, puis c'est pas quelque chose d'inné. Et puis, tu sais, toi, tu as vécu la séparation de ta première femme, Carole, qui est décédée. Et puis, réapprendre à faire l'amour avec ta deuxième femme, c'est quelque chose d'unique, comme c'était quelque chose d'unique avec ta première. Donc, c'est quelque chose qui est pas inné en soi, mais qui s'apprend parce que c'est vraiment une communication entre deux êtres.
Oui, tout à fait.
Une deuxième fausse croyance, c'est qu'un homme prend toujours son plaisir, puis qu'on n'a pas besoin, nous, les femmes, de s'en préoccuper. Mais cette fausse croyance-là, qu'un homme doit se contenter de donner du plaisir à sa femme, puisque lui, son orgasme, ça va de soi, c'est automatique, tandis que sa compagne, elle, elle doit en recevoir. S'il est important de tenir compte du bien-être de l'autre, l'homme, à ce petit jeu, risque d'oublier son droit à la sensualité, à la découverte de sensations subtiles. La femme, elle, de son côté, peut sentir la pression d'avoir un orgasme à tout prix, puis faire semblant. Et alors, deux malentendus qui nuisent à une sexualité épanouie, tant sur le côté masculin que sur le côté féminin. Puis, la troisième fausse croyance, ben, s'il m'aime, ça c'est dans tous les domaines de la vie, mais aussi dans le domaine de la sexualité, s'il m'aime, il doit deviner ce qui me plaît sans que j'aie à le lui dire. Ça, c'est bon pour les cadeaux, c'est bon pour les services, c'est bon pour la sexualité. Beaucoup de femmes sont tentées par le mythe du prince charmant, malheureusement. Elles croient que si leur conjoint les aime, il saura instinctivement comment lui donner du plaisir. C'est malheureusement faux. Personne n'a le don de deviner les désirs profonds de son conjoint si celui-ci ne les exprime pas. Voilà pourquoi c'est indispensable de les verbaliser, donc de communiquer, de s'exprimer, au risque de créer une forte incompréhension et de la frustration. Car comment on peut blâmer l'autre si on n'a pas de mode d'emploi? Une femme immobile qui n'ose pas dire à son partenaire ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas, elle ne peut pas lui en vouloir. Elle est en partie responsable de cette situation-là. Il doit prendre les choses en main pour que ça change, même si c'est inconfortable d'en parler parfois. Fait que là, c'est les trois fausses croyances que j'ai identifiées, mais il y en a sûrement d'autres.
Tout à fait. Mais peux-tu les répéter juste une après l'autre comme ça pour que les auditeurs puissent les retenir?
Oui. Alors, la première fausse croyance c'est, qu'on a dit, c'est faire l'amour, c'est inné. On n'a pas besoin d'en parler, ça va tout seul. Tu sais, c'est comme si c'était un acte, je vais dire, animal, là, parce que les animaux ne se posent pas trop de questions, là, je ne pense pas en tout cas.
Ouais.
Donc, c'est comme si c'est inné, mais en fait, on a besoin de communiquer. La deuxième fausse croyance, c'est un homme prend toujours son plaisir, donc il faut qu'il se concentre sur sa femme, alors que si elle ne communique pas, ben je veux dire, il ne pourra pas savoir. Puis le troisième, c'est il doit deviner ce qui me plaît, sans que j'aie rien à lui dire. Et ça, c'est vrai pour tous les domaines de la vie de couple. C'est à lui de deviner, là, je ne dirais pas ce que j'aimerais avoir pour Noël. Il devrait être capable de savoir, il me connaît. Mais en fait, c'est pareil pour la sexualité.
C'est intéressant que tu mentionnes ça parce que au Matin d'Éric, que j'anime en mode Facebook Live, mais hier, mardi, je mentionnais quatre éléments qui amènent un homme à être en colère. Et un des éléments, parce qu'il y en a huit, je l'ai segmenté en deux émissions, mais un des éléments que je mentionnais hier, ce qui frustre un homme puis qui peut l'amener même à être en colère, c'est d'avoir toujours l'impression, ou souvent l'impression, que justement, sa partenaire souhaiterait tellement qu'il devine son besoin, comme si qu'il le capte par télépathie, comme s'il est capable d'anticiper même son besoin. Et ça, malheureusement... Oui, vas-y.
Ben ça, c'est à cause qu'on veut tellement comme être connu de notre partenaire que s'il me connaît, il devrait savoir. C'est vraiment une fausse croyance, mais qui est vraiment très, très présente. C'est comme si tu m'aimais, là, tu saurais. Mais malheureusement, c'est pas ça.
Oui, comme si... si tu me mets, tu le saurais parce que tu aurais les antennes pour les détecter. Tu serais capable d'anticiper ma pensée, anticiper mon émotion, anticiper mes mouvements. Tu serais capable de me prévoir, de lire dans mes pensées. Alors que c'est dans la réalité de la vie, un homme n'a pas ces capacités-là. Mais vous, entre femmes, vous avez simplement à vous regarder, vous avez simplement à hocher de la tête ou faire un petit sourire, puis tout de suite, l'autre femme qui est devant vous, qui vous connaît le moindrement, va être capable d'analyser puis de détecter puis à quoi ça fait référence.
Oui, puis des fois, on est capable de lire entre deux lignes qu'est-ce que ça veut dire, alors qu'un homme ne va pas saisir. Mais ça, c'est parce qu'on est qui on est. Hein? C'est l'intelligence genrée.
Exactement. Donc, mais quand une femme est consciente qu'il faut lâcher prise à ce niveau-là, bien, qu'elle lui mentionne, et quand son partenaire fait des efforts dans ce sens-là, si ce n'est pas parfait, au moins, apprécier les efforts. Et si c'est bon, bien, apprécier que c'est bon. De le manifester, de le dire, de le démontrer par des paroles, par un sourire, par un regard affectueux. Et ça, ça encourage et ça donne le goût à un homme de se donner. Donc, s'il y a une discussion et que votre conjoint, justement, vous abordez le sujet de la sexualité, qui est un sujet délicat, parce que ça touche à la fois l'intimité, ça touche l'intimité physique, parce que même d'en parler, c'est une chose, mais après ça, de le vivre, c'est une autre chose. Et quand c'est bon, bien, de le mentionner, et ça va encourager votre conjoint à se donner davantage, parce que son désir, dites-vous que son désir fondamental, c'est de vous faire du bien. Ensuite, s'il sent une déception, il risque d'abandonner la bataille. Donc, s'il sent qu'il y a une déception, mais il trouve qu'il y a des victoires dans d'autres segments, n'ayez pas peur qu'il va rester là-dessus en disant « Ah, il ne se donnera pas davantage. » Au contraire, il va être dans l'attente d'avoir une appréciation. Donc, si les efforts sont appréciés, il va vouloir se donner davantage.
Est-ce que c'est quoi? C'est qu'on a souvent tendance à penser que ça prend la note parfaite pour dire « Oh, wow! » Mais même si la note est de 60 % ou même 40 % il faut faire l'effort, nous, en tant que femmes, là, de le voir, ça, de voir les efforts. Puis c'est que le 70 % manquant, mettons, ou le 60 ou le 40, peu importe, c'est là-dessus qu'on focus plutôt que de focusser sur l'effort qui a été fait. Puis je le vois quand je fais, moi, cet effort avec mon mari, je vois ce que ça donne. Et c'est comme, tu reçois plus en retour que si tu as fait comme, ah, ben ouais, c'est ça. Tu as juste fait ça. Je ne dis pas de même, là, mais il y a une façon que chaque épouse a de le dire à son conjoint. Et on se connaît en tant que couple. Fait que c'est toujours, faut toujours en mettre plus que moins. Ça, c'est encourageant. C'est vrai que c'est encourageant.
Tout à fait. Puis pour illustrer cette situation-là, là, c'est une illustration très masculine, mais vous allez voir, elle est frappante. Imaginez là, que votre conjoint s'en va travailler, il travaille comme un fou pendant toute une semaine, il a ses hauts puis ses bas, il a ses manquements, puis, le patron, il ne congédie pas. Il le garde au travail, mais il ne paye pas. Il revient la semaine suivante, il reçoit des critiques, il ne se fait pas dire si c'est bon, mais il ne reçoit pas sa paye. À un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Bien, l'homme, il se dit, bien, je vais quitter cet emploi-là, je vais m'en trouver un autre parce que moi, je veux travailler pour avoir un salaire. Et c'est un peu ça. L'homme qui ne reçoit jamais son salaire à lui, là, c'est l'appréciation. Et John Gray compare l'homme à un dauphin Et lui, ce qu'il a besoin pour faire des tours, pour sauter, pour faire des pirouettes, ce qu'il a besoin, c'est d'un poisson. Son poisson, c'est une marque d'appréciation. Et c'est vrai dans tous les domaines, mesdames, que ce soit la vie quotidienne, que ce soit la vie nocturne, la vie de nuit, c'est la même chose également. Avant qu'on saute à l'autre sujet, l'autre zone qui pourrait amener des tensions ou qui pourrait peut-être être difficile à aborder, est-ce que tu voulais rajouter un commentaire, Diane?
Je veux juste dire que je trouve ça intéressant, encore une fois, ce que tu apportes, parce que ça va dans les deux sens, puis tu sais, nous autres aussi, puis en tant que parents aussi, tu sais, des fois, on donne beaucoup à nos enfants, là, je parle quand ils sont plus jeunes, mettons, puis c'est quand un « wow, merci maman, wow, merci papa, puis je t'aime », c'est comme ça fait, on ne demande pas 1 million de dollars, là, ça fait vraiment la différence, c'est la même chose dans le couple, là, puis c'est la même chose pour les deux partenaires, tu sais, que la femme, si on est dans les rôles très, très traditionnels, là, chez nous, c'est moi qui fais le lavage, le ménage, le repassage, les repas, mais c'est le fun de temps en temps de dire « Hey, j'aime vraiment ce que tu as fait pour le souper. » Puis « Hey, merci, mon linge sent tellement bon. » Tu sais, c'est comme tout ça, bien, on prend souvent l'autre pour acquis, puis malheureusement, bien, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on se sépare, on brise la relation parce qu'on prend l'autre pour acquis. On reste dans nos frustrations, chacun de notre côté. On fait semblant que ça va bien. Puis après ça, on pense qu'on va avoir une relation sexuelle. Mais là, la femme a dit « Wow, j'en veux pas parce que tu ne m'as pas satisfait dans toutes sortes de domaines, surtout émotifs. » Puis l'homme, il dit « Ouais, si tu penses, toi, que... » Fait que c'est vraiment de s'exprimer, de communiquer, puis de trouver les bons moments pour le faire. Je pense que ça, c'est vraiment le secret. Et ça s'apprend. Ça ne s'apprend pas sur une semaine, ça s'apprend sur les années. Tu sais. Il ne faut pas se décourager.
Exactement. C'est important de persévérer. Puis une des bonnes façons de manifester de l'appréciation à sa partenaire qui fait plusieurs choses pour lui, qui fait plusieurs choses pour son conjoint, bien, c'est de la sortir de son rôle de femme de maison. En la sortant, peut-être une petite sortie, aller voir un spectacle, aller au cinéma, un bon souper romantique, ça la sort de son rôle traditionnel et c'est une belle marque d'appréciation. Ouais. Une autre zone de tension, c'est quand on touche des sujets plus délicats, parce que là, si on parle de ce qui se passe dans notre tête, nos préoccupations, dans notre cœur, nos émotions, les relations, ce qui se passe dans notre corps, la fatigue, les tensions, etc., les petits bobos, les malaises, ça tourne autour du quotidien. Mais il y a des sujets un peu plus délicats, un peu plus pointu, quand on parle de tabous sexuels, de fantasmes, là, on s'en va dans un univers qui touche notre imaginaire, qui touche notre jardin secret, qui fait en sorte qu'il peut avoir des malaises de l'exprimer, puis aussi des malaises face à la réaction de l'autre. Et ce qui est important de se poser comme question, quand on veut aborder ces sujets-là. Qu'est-ce qu'on recherche, par exemple, derrière un fantasme? Qu'est-ce qui nous excite là-dedans? Parce que des fois, ce n'est pas la chose qu'on va faire ou la façon qu'on va le faire, mais c'est l'excitation que ça crée. Et ça en dit long, parce que des fois, ce qu'on voudrait expérimenter avec notre partenaire peut créer chez l'autre un malaise ou un inconfort. Et c'est important de respecter ça. Ça fait partie du respect de l'autre. S'il n'y a pas de respect dans l'intimité sexuelle, s'il n'y a pas de respect dans l'intimité, eh bien, ça devient difficile d'avoir un plaisir partagé. Mais, alors, c'est important de savoir qu'est-ce qui nous excite d'abord pour voir que peut-être qu'il y a une autre façon de vivre cette excitation-là, mais dans une atmosphère où est-ce que tout le monde, quand je dis tout le monde, les deux partenaires, trouve son plaisir et trouve justement son espace. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se sentir forcé ou de le faire tout simplement pour faire plaisir à l'autre, mais de ne pas être bien. Et moi, je vous dirais, messieurs, faites attention quand vous partagez, par exemple, un fantasme ou vous voulez vivre une petite folie sexuelle, moi, je vous dirais, partagez-le et ne vous fiez pas au oui que votre conjointe va vous lancer en disant « OK, c'est correct ». Si votre conjointe vous dit « OK, c'est correct », c'est fort probablement une forme de politesse. Moi, je vous dirais, laissez une semaine, laissez deux semaines, laissez-la revenir avec ça. Puis si elle ne revient pas avec ça, ou si elle revient et elle exprime un malaise, c'est important de la respecter. Peut-être que vous allez le vivre un peu plus tard, ou peut-être que ça ne se vivra pas, mais je pense que simplement le fait de faire sentir à sa partenaire que vous la respectez, peut-être qu'il y a d'autres moyens qui vont débloquer, qui vont amener un élément piquant, comme on pourrait dire, qui va se vivre autrement parce qu'elle va se sentir libérée. Qu'est-ce que tu en penses, Diane?
Oui, c'est très juste, parce que sinon, on s'enferme dans notre bulle, puis c'est le début de la fin. Malheureusement, ça crée des tensions dans le couple. Mm-hmm. Donc encore là, c'est vraiment de partager, puis il faut s'accueillir l'un l'autre. Ça, c'est mm-hmm. certain.
Oui, c'est pour ça que moi, je crois beaucoup au principe, le principe biblique du commun accord. Donc, de voir à ce que les deux soient à l'aise dans leur conscience, dans notre conscience. C'est important de ne pas transgresser cette conscience-là, puis de créer un malaise, sinon parce que dès qu'il y a un malaise, ça devient difficile de s'abandonner. Peut-être que l'expérience va se vivre sur le coup, mais par la suite, les répercussions, eh bien, va faire qu'il y a quelque part, justement, quand on disait tête, cœur et corps, il y a peut-être une partie du cœur qui va se refermer ou se refroidir. Et ça, à ce moment-là, c'est pas bon signe. C'est pour ça que la semaine prochaine, on va toucher à certains aspects, comment comprendre les signaux d'une femme et comment la réallumer. Mais est-ce que toi, tu voudrais rajouter un autre point parce qu'il nous reste encore une bonne minute, Diane?
Bien, moi, je pense qu'on peut relever de ce qu'on a discuté aujourd'hui, la communication qui est tellement importante, puis de s'accueillir l'un l'autre, et le mot respect. Je pense qu'on n'est pas toujours au même niveau parce qu'on provient de backgrounds différents, excusez pour l'anglicisme. L'arrière-plan, c'est un arrière-plan. Est-ce que c'est un arrière-plan religieux? Parce que souvent, entre les gens de notre âge, on a été éduqués dans le judéo-christianisme avec beaucoup de tabous. Et puis là, comment se défaire des tabous? Mais c'est en discutant puis avec notre partenaire, parce que c'est avec elle ou avec lui qu'on vit. La relation sexuelle, puis ça, en communiquant dans le respect, en s'accueillant l'un l'autre, puis en forçant rien. Moi, c'est ce que je retiens de l'émission aujourd'hui.
Tout à fait. Oui, puis un bon livre pour briser les tabous, c'est un livre biblique, ça a l'air, peut-être vous allez dire, voyons donc, oui, le Cantique des Cantiques. Parce que quand vous lisez vraiment d'une manière... comment je dirais, concentré, vous cherchez à comprendre le message derrière, vous allez voir qu'il y a beaucoup de signaux érotiques, il y a beaucoup de petites folies qui se passent dans ce livre biblique-là, parce que Dieu veut nous montrer par ce livre que c'est son invention, la sexualité, et c'est fait pour l'épanouissement et le bien-être d'un couple qui vit une belle relation d'amour. Je vois que le temps file, je suis certain que Diane, tu aurais eu beaucoup d'autres choses à dire, mais on va en garder pour la semaine prochaine. Donc, peux-tu nous indiquer, j'en ai glissé quelques mots, mais nous faire un résumé en 15 secondes. Qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine?
Bien, comment comprendre les signaux de la femme en matière de sexualité, puis comment aider son mari, son conjoint à devenir plus romantique, de quelle façon qu'on s'y prend. C'est ça qu'on va voir.
Exactement. Et je vais vous donner quelques indications aux hommes pour se donner des moyens pour rallumer la flamme. Alors ça, c'est une petite dimension, un peu plus épicée, quoi. On va terminer la saison avec une note plus épicée. Alors, merci beaucoup, Diane, d'avoir été là. Ça a été un plaisir de partager le micro avec toi.
Merci à toi. Merci à nos auditeurs aussi.
Excellent. Alors, ben oui, on vous salue. Merci d'être là. Merci aux auditeurs du 92,7 FM, à tous ceux qui se sont branchés sur YouTube, sur Décentré ou sur les réseaux sociaux. Merci d'être là et à la semaine prochaine, 22h sur le 92,7 FM. Merci. Au revoir.